Merci d'écouter RFI. Il est 5h, ici à Paris, 8h, à Islamabad.
Martin Guez.
Frappes aériennes contre tirs d'artillerie et des morts civiles des deux côtés de la frontière. Nuit de violence entre l'Inde et le Pakistan autour du Cachemire. Conflit ravivé par l'attaque terroriste du 22 avril dernier en Inde. Nous ferons le point sur cette escalade avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghazali, dès le début de ce journal. Direction Rome, ensuite, où se réunissent aujourd'hui quelques 133 cardinaux réunis en conclave pour choisir un successeur au pape François. Notre envoyé spécial Véronique Grimard nous dira tout sur le déroulé de la journée. Le Soudan rompt ses relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis alors que les frappes aériennes se succèdent sur Port-Soudan. Enfin, Ahmed Al-Shara est à Paris aujourd'hui. Le président de la transition syrienne rend visite à Emmanuel Macron, ce qui suscite beaucoup de critiques. Nouvelle escalade meurtrière entre l'Inde et le Pakistan. New Delhi a mené des frappes aériennes au Cachemire pakistanais et dans le Punjab, où 8 civils sont morts selon le porte-parole de l'armée pakistanaise. L'Inde qui dit agir en réaction à l'attaque terroriste qui a fait 26 morts il y a 2 semaines au Cachemire indien, un attentat qui n'a jamais été revendiqué. Mais les autorités indiennes accusent Islamabad et la riposte a commencé selon les mots du ministre pakistanais de la Défense, riposte qui a fait 3 morts. Des civils, là aussi cette fois-ci du côté indien de la frontière, tués par des tirs d'artillerie pakistanais. On retrouve à Islamabad Sonia Ghazali, notre correspondante. Sonia, cette nuit de violence qui marque un nouveau seuil dans le conflit entre les deux pays.
Oui, en effet Martin, et on a réussi à joindre par téléphone un résident de Bahawalpur dans la province du Punjab. Il nous a décrit cette nuit effrayante, le ciel est devenu rouge et quelques secondes plus tard des explosions ont retenti, dit-il. Il dit ne jamais avoir entendu d'explosion aussi forte de toute sa vie. Les vitres de sa maison ont été brisées par la puissance de la déflagration vers 1h du matin. Mohit, qui est à une quarantaine de kilomètres de Lahore dans l'est du Pakistan, et l'autre ville du Punjab qui a été visée la nuit dernière par les frappes indiennes, Kotli, Muzaffarabad et 2 autres zones dans le Cachemire administrées par le Pakistan ont aussi été visées. Aucune infrastructure militaire ne se trouve près des cibles qui ont été frappées. L'Inde assure qu'il s'agit de sites terroristes. Le Pakistan dément. Cet acte d'agression haineux ne restera pas impuni, a réagi le Premier ministre pakistanais sur les réseaux sociaux. Une déclaration faite dans la foulée d'une riposte du Pakistan à coups de tir d'artillerie sur la ligne de contrôle qui sépare les deux pays. Le Pakistan a abattu 5 jets de l'armée indienne, dont 3 rafales, ainsi qu'un drone. Information confirmée par le ministre de l'Information qui a donné ce matin à 7h une conférence de presse retransmise à la télévision. L'armée pakistanaise qui aurait également frappé plusieurs postes de sécurité de l'armée indienne de l'autre côté de la ligne de contrôle.
Merci Sonia Ghazali, en direct d'Islamabad sur RFI. Et ce matin, le secrétaire d'État américain Marco Rubio appelle à désamorcer la crise entre les deux pays. Le ministère des Affaires étrangères indien doit faire un point sur la situation d'ici 1h30 alors qu'un Conseil national de sécurité doit se tenir au Pakistan. Le conflit au Cachemire entre l'Inde et le Pakistan a retrouvé minute par minute suivi des derniers événements sur notre fil en direct assuré par la rédaction numérique de RFI. Pour tout savoir, rendez-vous en une de notre site internet www.rfi.fr. Au Proche-Orient, la défense civile gazaouie fait état de 9 nouveaux morts lors de nouvelles frappes israéliennes contre une école abritant des personnes déplacées dans le centre de l'enclave. De premiers tirs avaient fait hier 22 victimes dans cette même école. Le Hamas dit ne plus voir d'intérêt à négocier une trêve avec Israël alors que l'État hébreu a fait part de son plan de conquête de Gaza. Gaza sera totalement détruite, a affirmé hier Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances, prévoyant un déplacement massif de la population palestinienne. Loin des affres et des violences de la guerre, la chrétienté qui se cherche un nouveau souverain pontife après le décès du pape François le 21 avril dernier. Les cardinaux du monde entier se réunissent en conclave au Vatican. Pas moins de 133 prélats venus de 70 pays et de 5 continents se retrouvent ce mercredi à Rome. Ils ont rendez-vous après la messe pour l'élection du nouveau pape. Mais comment se passe justement un conclave, mode d'emploi, expliqué par notre envoyé spécial à Rome, Véronique Guémard.
Conclave, le terme vient du latin cum clavis, fermé à clé, et littéralement les 133 cardinaux qui vont entrer en conclave seront enfermés à clé. Les relais de téléphonie mobile situés au Vatican seront désactivés à partir de 15h et les cardinaux n'auront plus accès à leur téléphone portable ni à la presse pour ne pas subir de pressions extérieures sur le choix du futur pape et garder toute leur capacité de discernement. Les cardinaux arriveront d'abord en procession vers 16h30 pour entrer dans la chapelle Sixtine à côté de la basilique Saint-Pierre. Puis ils entonneront le chant du Veni Creator, Viens Saint-Esprit Créateur. Tous les cardinaux devront prêter serment en promettant le secret absolu sous peine d'être excommuniés, bien que certains scrutins aient été révélés par la suite. Le personnel a lui aussi prêté serment et sera sans communication. Puis le maître des cérémonies liturgiques pontificales prononcera la formule en latin « extra omnes », tous dehors, et les portes de la chapelle Sixtine se refermeront. Elles ne rouvriront que lorsqu'un pape aura été élu. La cheminée au-dessus de la chapelle Sixtine laissera s'échapper de la fumée blanche et les cloches de la basilique Saint-Pierre sonneront à la volée. Véronique Guémard, Rome, RFI.
Et le conclave qui doit débuter aux alentours de 16h, heure de Rome. Les premières fumées, noires ou blanches, sont attendues autour de 19h. On y reviendra bien sûr tout au long de la journée sur RFI. RFI 5h05 à Paris comme à Khartoum, nouvelle frappe de drone sur Port-Soudan cette fois-ci. C'est la base navale qui aurait été touchée par des frappes aériennes, alors que ces derniers jours, des frappes ont touché l'aéroport et des dépôts de carburant. Le Soudan, par ailleurs, qui a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, est qualifié d'agresseur par le gouvernement soudanais qui accuse Abu Dhabi de soutenir les paramilitaires des FSR. Les Émirats arabes unis qui sont pointés pour leur soutien matériel, notamment des livraisons d'armes. Une rupture diplomatique qui intervient donc alors que la ville de Port-Soudan, où le gouvernement a établi son siège provisoire, a été attaquée à nouveau. Et ce, pour le quatrième jour consécutif, des frappes attribuées au FSR. Alexandra Branchon.
Depuis dimanche, l'aéroport, le port maritime, une base militaire, des dépôts de carburant et une centrale électrique ont été touchés par ces frappes de drones, des infrastructures militaires et civiles. Ces frappes attribuées aux paramilitaires constituent un développement inquiétant dans ce conflit, explique le chercheur soudanais Magdi El Ghizouli.
Il s'agit de détruire ce qui fonctionne toujours. Ce n'est pas juste attaquer le gouvernement, mais aussi le système de santé, d'éducation, les importations, les exportations, le commerce international, tout ce qui fait fonctionner un pays. Et ces destructions ont un effet démoralisant.
Port-Soudan est en effet stratégique, le point d'entrée maritime et aérien dans le pays. C'est par là que transitent tous les produits de consommation, y compris l'aide humanitaire. Hier, tous les vols civils au départ de l'aéroport ont d'ailleurs été suspendus et les agences des Nations Unies qui opèrent depuis Port-Soudan ont temporairement interrompu leurs activités.
Explication signée Alexandra Branjon. Venons-en désormais à cette journée chargée à l'Élysée à midi. C'est le tout fraîchement et très difficilement élu nouveau chancelier allemand qui est attendu, Friedrich Merz. Après sa folle journée au Bundestag, rend visite à Emmanuel Macron, le président français qui enchaînera ensuite avec la réception d'Ahmed Al-Shara, le président syrien par intérim. Une rencontre qui fait beaucoup parler. La transition politique en Syrie est marquée par de nombreuses violences communautaires qui ont d'abord touché la minorité alaouite, celle de l'ancien président Bachar el-Assad, mais aussi la communauté druze, Paris, qui dit vouloir profiter de cette visite pour œuvrer à une reconstruction libre et respectueuse de la Syrie. Mais certaines voix s'élèvent pour protester, comme la voix d'Eva qui vit en France, d'origine druze syrienne. Elle ne croit pas en Ahmed al-Shara et exclut de rentrer en Syrie.
Je pensais retourner cette année parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas vu ma famille, mais là, avec la situation, non, je ne peux plus retourner. Espérant que Macron va réagir, la France va réagir contre ces massacres qui se produisent en Syrie, contre les minorités, déjà au début contre les Alaouites, et là, aujourd'hui, contre les Druzes à Jaramana, à Shafiyet Sahnaya et Soueida, où j'ai ma famille, mes parents. C'est sa responsabilité, c'est à lui de stabiliser la Syrie, de mettre fin à tous les crimes, parce que, disons, il est venu pour faire ça. Et quand on regarde aussi son parcours, ça fait peur. Pour moi, je peux pas espérer quelque chose de bien de quelqu'un qui a un tel parcours. Non, c'est lui, c'est sa nature. Il peut pas se changer en fait. J'avais pas beaucoup d'espoir, non.
Des propos recueillis par Abla Junaidi. L'actualité économique à présent est la Chine qui annonce des négociations commerciales avec Washington. Négociations qui doivent avoir lieu prochainement en Suisse pour mettre fin à la guerre commerciale entre les deux pays. Initiée par des droits de douane faramineux de 145%, instaurés par Donald Trump. Pékin qui avait riposté en imposant les produits américains à hauteur de 125%. Eux étaient tous à 100% hier soir. Les joueurs de l'Inter Milan et du Barça se sont rendus coup pour coup au terme d'un affrontement déjà légendaire en demi-finale de la Ligue des Champions. Après le nul 3 partout décoiffant du match aller, les interistes ont coiffé au poteau les Catalans. 4-3 en prolongation au match retour. L'Inter qui attend désormais le PSG au Arsenal. Français et Anglais au rendez-vous au Parc des Princes ce soir. Demi-finale retour après la victoire 1-0 des Parisiens à Londres. Grande soirée spéciale sur RFI à suivre dès 18h50. Temps universel tout de suite. Vous avez rendez-vous avec Grand Reportage. Excellente journée à l'écoute de RFI.